Oui, alors, comme a dit Salomé, ma famille est là, donc c'est un peu spécial. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Et, alors, je sais que ma famille, l'Église, vous, vous étiez là. Et j'allais dire que c'est vraiment une joie d'être aussi en peut-être plus petit comité, parce qu'on se sent encore plus en famille, et d'autant plus là, vu qu'ils sont aussi là. Donc ce matin, je me réjouis vraiment de pouvoir vous apporter ce qui, je pense, a été déposé par Dieu sur mon cœur. Ce matin, mon titre de ce message, c'est « Par quoi ou par qui es-tu conduit ?» On va voir beaucoup de choses. On va voir deux personnes qui, alors qu'elles désiraient aller à un endroit précis, ils sont voyés en fait en être empêchés et même conduits ailleurs. Dans cet endroit, ils vont rencontrer un groupe de personnes et l'une d'elles va se convertir, être touchée au plus profond de son cœur. Mais ça ne s'arrête pas là. On verra aussi quelqu'un qui est conduit par un esprit mauvais, suivre nos deux ou trois comparses du début. Et nous verrons aussi que celle-ci les suit en criant ce qui semble être la vérité. Donc voilà, on va voir beaucoup, beaucoup de curiosité ce matin. Mais dans quel but? Il me semble important de nous poser cette question, à moi aussi le premier, chacun de manière individuelle. Qu'est-ce que nous attendons d'une prédication? Qu'est-ce que vous attendez de cette prédication? Est-ce que peut-être on attend d'être rejoint dans nos souffrances ou être nourri de connaissances, passer simplement un bon moment? Ou est-ce que on attend vraiment d'être transformé par l'action du Seigneur? Pour moi, je suis plutôt partisan de cette dernière. C'est pourquoi je veux vraiment nous inviter, encore une fois, même si ça a déjà été dit, de pouvoir ouvrir notre cœur en grand à ce que le Seigneur voudrait nous dire ce matin. Et peut-être que nous aurons la chance de vivre un temps comme celui que cette femme a vécu, un temps qui l'a poussée à se convertir, à donner sa vie à Jésus, comme tu nous as pu nous aussi nous inviter à ça, Daniel. Et peut-être que des vies pourront ainsi être libérées, comme ce fut le cas aussi de cette autre femme. Avec le Seigneur, tout est possible. Mais cela tient vraiment à une chose, être conduit par l'Esprit Saint. Alors ce matin, je veux nous poser cette question. Par quoi ou par qui es-tu conduit? Une question toute simple, mais une question tellement importante, une question existentielle. Vous connaissez sûrement cette histoire où un jeune homme riche qui fait le bien et respecte les commandements du judaïsme s'approche de Jésus. Il lui demande ce qu'il doit faire encore pour être sauvé. Alors Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Il s'en alla tout triste car il avait beaucoup d'argent. Cet argent, c'est ce qui le conduisait. Et on peut apparenter cela à de l'idolâtrie, notion qu'on a vue déjà plusieurs fois dans d'autres prédications et qui ne sera pas absente de celle-ci. Par quoi ou par qui sommes-nous conduits? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, 21. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Savoir ce qui nous conduit est très important. Ça impacte notre destinée, bien sûr la vie éternelle avec Christ, mais également aussi notre vie sur terre. Comme pour Paul et Timothée dans Actes 16, le texte qu'on va aborder ce matin. Ils se sont laissés conduire et de ça a découlé une conversion, puis une libération. Ça les a menés également à être enfermés, puis à être libérés de manière spectaculaire par des anges. montrant ainsi à tous la puissance du Seigneur et de son message, et ouvrant un chemin à sa propagation en Europe. Donc sans plus attendre, entrons dans notre texte. Paul et Timothée conduits par l'Esprit Saint. Cette partie du texte de Actes 16 a déjà été abordée par Christian, il me semble que c'était en janvier, et il nous avait montré sur la carte quel était le déplacement de Paul dans ce second voyage. Il avait relevé que celui-ci était quand même bien particulier, et pour cause. Alors que jusqu'à présent, Paul se déplaçait dans des lieux connus et prêchait là où il passait, désormais ça n'allait plus être totalement comme ça. En effet, jusqu'ici, c'était Paul qui tenait le volant de la voiture et il avait comme copilote le Saint-Esprit. Je le dis un peu pour provoquer, bien sûr que ce n'est pas comme ça. Ça ferait vraiment mettre le Saint-Esprit à une place qui n'est pas sa place, une mauvaise place. Quoi qu'il en soit, malgré tout, Paul, d'une certaine manière, avait quand même un certain contrôle sur la situation. Et puis, ce fut moins le cas. Le Saint-Esprit décida de prendre sa place, sa pleine et juste place, et du coup, en tenant ainsi le volant, et faisant de Paul son copilote. Et là encore, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais ça a le mérite de nous questionner. En tout cas, ça a le mérite de me questionner. Suis-je le conducteur de ma voiture ou suis-je le copilote? Est-ce moi qui dirige ma vie ou le Seigneur? On était en Allemagne, chez mes beaux-parents, et en rentrant en voiture, justement, j'étais au volant, et tout d'un coup, j'ai senti une grosse oppression. J'étais tellement stressé, et j'ai su pour la première fois en fait, que j'étais en train de faire une crise d'angoisse. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais là, j'ai pu mettre un mot là-dessus. Et au début, j'ai essayé de gérer par moi-même, autant le volant que ma personne, et c'était compliqué. Et là, mon épouse a remarqué ça, et on a mis la louange, et je me suis vraiment placé dans les bras du Seigneur, et toute cette angoisse, elle est partie. Suis-je le pilote, ou est-ce que c'est le Seigneur qui est le pilote? Est-ce moi qui dirige ma vie, ou le Seigneur? Je lis Actes 16, les versets 6 et 9. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Le Saint-Esprit n'a pas seulement pris le volant, il les a empêchés d'aller où ils désiraient. Luc, l'auteur des Actes, de ce que nous savons, est une personne qui est très précise. Il ne fait rien ou il n'écrit rien par hasard. Cela se voit notamment au niveau de la précision des éléments géographiques, que ce soit dans son évangile ou dans les Actes. Alors le fait qu'il soit écrit qu'ils étaient empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie et qu'il leur a interdit le passage en Bithynie n'est pas anodin. Cela veut dire que de manière concrète, peut-être même physique, ils en ont été empêchés. Nous voyons donc là un esprit qui est puissamment à l'œuvre et qui est engagé. Au-delà du physique aussi, je ne sais pas pour vous, mais parfois le Saint-Esprit peut agir ainsi aussi à l'intérieur de nous. On a envie de faire quelque chose, mais nous sentons au fond de nous que cela n'est pas bon pour nous, au point où c'est comme si nous sommes bloqués. J'ai aussi vécu dernièrement quelque chose de cet ordre-là. J'ai une passion qui peut être bien et qui peut être aussi mal, parce que ça peut être parfois aussi une idole. J'aime beaucoup regarder des séries. Et surtout lorsqu'il y a une histoire qui est bien construite, et si une petite touche de fantastique, alors là, c'est trop bien pour moi. Du coup, je tombe sur une nouvelle série, puis je commence à la regarder. Elle a tout ce que j'aime, une bonne histoire, du fantastique, parfait. Sauf qu'il y a différentes choses qui se font dans celle-ci qui s'apparentent à de l'occultisme. Du coup, au début, j'étais là, bon, moi, je vais quand même essayer, puis si jamais, si ça me, c'est pas trop mal, ben voilà, je continue. J'ai regardé un épisode, et puis après, j'ai arrêté. Je savais au fond de moi que c'était pas bon pour moi. J'étais même bloqué. J'avais ce sentiment, presque physique, que le Saint-Esprit est en train de me dire, mais ne la regarde pas. C'est pas bon pour toi. Et j'aurais plein d'autres exemples à ce sujet, ou d'autres sujets. Et je pense que vous aussi, vous avez ce genre d'expérience. Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, alors le Saint-Esprit est entré dans nos vies et il œuvre en nous. Il nous conduit. Mais est-ce que nous lui laissons toujours le temps ou le droit de le faire? Après qu'il ait empêché Paul et Timothée d'aller en Bithynie, ils allèrent en Mysie puis à Troas. Là, il est dit que Paul a eu une vision pendant la nuit, une vision les invitant à aller en Macédoine et donc en Europe. Une nouvelle fois, nous voyons ici le Saint-Esprit à l'œuvre, cette vision n'étant pas venue de nulle part, mais bien de lui. Mais est-ce que Paul va comprendre qu'il s'agit d'une vision que le Seigneur lui a donnée? C'est là qu'entre en jeu le discernement. Même si, bien sûr, les événements qui ont précédé l'ont déjà bien aidé à le saisir. En effet, on peut voir dans le fait que le Saint-Esprit l'ait empêché à deux reprises d'aller où il le désirait, vraiment comme une préparation à accepter cette vision, à comprendre qu'elle venait du Seigneur. La réaction est immédiate. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Je n'ai pas mis de carte dans mon PowerPoint, mais si jamais, dans votre temps libre, vous pourrez revoir toutes ces villes. Le passage au « nous » au verset 10 peut nous montrer qu'à partir de ce moment-là, Paul n'était plus seulement avec Timothée, mais que Luc pouvait également être présent et les a donc accompagnés pour la suite de ce voyage jusqu'à Philippe, ville où, comme on a vu, plusieurs choses vont se passer. La première chose, c'est qu'une femme du nom de Lydie va se convertir. Mais avant que je parle un peu plus de Lydie, laissez-moi parler un petit peu de Philippe. Il s'agissait d'une des plus grandes colonies romaines de Macédoine. Ça nous montre deux choses. Tout d'abord, bien qu'elle ne soit plus sur le même continent, on se trouve en Europe, et donc l'annonce de l'évangile est en train d'encore plus avancer. Paul et ses camarades ne sont donc qu'à dépayser, dû au fait que la ville et la région sont sous domination romaine. La deuxième chose est que bien que Paul soit désormais encore plus dépendant qu'avant de l'action de l'Esprit, il n'a pas pour autant changé son mode d'évangélisation. Et ça va être confirmé au verset 13. Paul ciblait premièrement des grandes villes et les juifs de ces villes, ainsi que tous ceux qui adhéraient aux croyances du judaïsme sans pour autant être juifs. Paul, dans cette grande ville, va donc chercher à trouver des croyants. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. On aurait pu penser que Philippe étant une grande ville, il y aurait une synagogue. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi ils ont cherché un lieu de rencontre dans la nature, proche de la rivière. Il faut savoir que pour avoir une synagogue, à l'époque, je ne sais pas encore maintenant, j'imagine, il fallait avoir au moins 10 vrais juifs. Et dans cette ville, ce n'était pas le cas. Du coup, ils se réunissaient au bord d'une rivière. La rivière était très importante parce que notamment, elle permettait de pouvoir faire la purification avant le temps de prière. On voit également aussi cette importance de la rivière dans l'un des psaumes les plus scandaleux, le psaume 137. Alors que le peuple d'Israël s'était fait exiler à Babylone, il se retrouvait au bord du fleuve, ce qui a d'ailleurs donné cette chanson très connue, « By the River of Babylon ». Alors le contexte n'est pas du tout le même, c'est pas du tout la même époque, pas le même exil, pas la même souffrance. Dans le psaume, ils ont perdu toute joie et ne peuvent plus rendre un culte à leur Seigneur. Tandis que dans notre passage, ils se réunissent pour prier ensemble. Le seul point commun, c'est la rivière. L'eau a de tout temps été très importante pour les Juifs. C'est pourquoi Paul et ses compagnons savaient qu'ils allaient trouver des Juifs là-bas. Et en y allant, ils rencontrent des femmes et commencent à leur parler. Parler à des femmes dans ce contexte-là, ce n'était pas très bien vu à l'époque. Mais Paul, au même titre que Jésus, avait dépassé cela. Il était progressiste. Et au même titre que Jésus, il leur parle aussi un jour de sabbat. On voit qu'en fait, on peut faire énormément de liens entre Paul et Jésus. On ne va pas le faire maintenant, ce n'est pas le sujet de la prédication, mais encore une fois, si ça vous intéresse, allez creuser la question. Je continue ma lecture. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. On ne va pas tout développer, parce qu'il y a pas mal de choses à dire par la suite, mais on peut quand même relever plusieurs choses. Tout d'abord, en ce qui concerne Lydie, on voit qu'elle était assurément une personne riche. Il y a des questions autour de, voilà, est-ce qu'elle avait perdu son mari ? On ne sait pas vraiment. Mais quoi qu'il en soit, elle était fortunée, ce qui lui a permis de pouvoir les accueillir chez elle. Et le fait qu'elle y soit avec sa famille, donc à l'époque on vivait vraiment en famille dans ces maisons, bah ça rendait la situation correcte une nouvelle fois pour l'époque. Le second élément qu'on peut révéler, c'est qui me semble être le plus important, c'est sa conversion. Et plus précisément la manière dont elle est vécue. Le texte dit que le Seigneur a ouvert son cœur. C'est le Seigneur lui-même qui opère la conversion. Paul a seulement accepté d'être conduit dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il dit. Et c'est le Seigneur qui a agi. C'est tellement rassurant. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu seul. Qu'importe comment je prêche ce matin, si le Seigneur veut vous parler, il le fera. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui et lui seul. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je préfère clairement compter sur lui que sur moi. Il est plus fiable. Même si bien sûr parfois, on aime bien avoir le contrôle sur les choses, et moi le premier. Mais Dieu est tellement un meilleur pilote que nous. Il sait parfaitement ce dont nous avons besoin. Alors je repose encore une question et je vais en poser beaucoup ce matin. Allons-nous lui laisser le volant et faire notre part ? Paul et ses compagnons vont faire ensuite la rencontre d'une autre femme, une femme qui est sous une emprise démoniaque, tellement conduite par ce mauvais esprit qu'elle ne fait que sa volonté à l'esprit et celle de ses maîtres. Par quoi ou par qui sommes-nous conduits ? Cette femme dont nous allons parler, bien qu'étant sous l'emprise d'un esprit mauvais, n'est pas sous cette seule emprise. Elle est également sous l'emprise de ses maîtres qui profitent d'elle, de ses dons, et aussi d'un fonctionnement sociétaire basé sur l'argent. Les activités de cette femme profitent à l'ensemble de la région de Philippe, amenant même une certaine culture d'idolâtrie dans celle-ci. Une culture tellement solide qu'il faut à tout prix retirer tout ce qui pourrait mettre en péril cette société, les conduisant ainsi, après cet événement, à emprisonner Paul et ses compagnons. Mais revenons à notre texte. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédications, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Nous sommes donc face à une jeune esclave qui a un don de divination. Et ce don lui a été donné par un esprit mauvais. Cet esprit est un esprit de pitié, semblable à celui qu'on pouvait voir à Delphes en Grèce. Ce fameux oracle vers qui beaucoup de monde allait pour savoir certaines choses sur leur vie, savoir s'ils allaient avoir des victoires militaires. L'oracle de Delphes est mentionné dans la mythologie grecque, mais encore aujourd'hui, elle fait partie aussi de notre culture populaire, et ce même dans la pop culture. Pour les plus jeunes d'entre nous, j'ai aussi une autre passion pour laquelle je m'adonne malheureusement ou heureusement un peu moins souvent, ce sont les jeux vidéo. Et en ce moment, je joue à un jeu en particulier, c'est Assassin's Creed. Il y en a plusieurs et je joue à celui qui se passe dans la Grèce antique. Et évidemment, il y a fait mention, bien sûr, de cette pitié du fameux oracle de Delphes. Notre culture a toujours glorifié le monde occulte. Il y a toujours eu un attrait. Mais actuellement, cette tendance, elle est vraiment forte, elle est vraiment présente. Il y a vraiment un attrait pour ça. Et je pense qu'il est important pour nous, croyants, de s'en rendre compte, d'être conscient de ça. De ne pas être simplement entre nous, mais aussi on fait partie de ce monde, donc qu'on puisse s'intéresser à ça. Mais comme on le voit aussi dans notre passage, c'est réciproque. Cette femme va à la rencontre de Paul et ses compagnons. Et il est vrai qu'on peut observer qu'il n'est pas rare que les personnes pratiquant l'occultisme, la magie ou d'autres choses diverses et variées soient attirées aussi par les croyants. À ce propos, je vais apporter un court témoignage et on pourra continuer notre lecture. Alors que j'étais en formation pour devenir éducateur, j'ai été confronté à ce monde-là. Après une période où je me suis pas mal éloigné de mon Seigneur, je lui ai reconsacré ma vie. Et je lui ai dit que je voulais le servir, et si pour ce faire il pouvait me donner le don de discernement, ce serait top. Ce qu'il a fait. Je vous passe tous les détails, mais à ça a suivi vraiment un gros travail sur moi-même et un bon nettoyage. Quoi qu'il en soit, je travaillais dans une belle garderie, et là j'ai été confronté à la maman d'un enfant que je gardais. Pour la petite anecdote, cet enfant était tellement chargé spirituellement que tout le monde remarquait que même si elle avait des habits propres, ça sentait hyper fort. C'est vraiment une odeur un peu âcre. C'est horrible. Et donc la première fois qu'on s'est vu avec cette maman, on s'est regardé dans les yeux et j'ai senti un grand poids et j'ai eu l'impression même que j'étais en train de tomber dans les pommes. Et par la suite, il s'est avéré qu'en fait cette maman, elle était médium. Et lorsque nos regards se sont croisés, c'est comme si spirituellement, en fait, je ne regardais plus cette dame, mais je regardais l'esprit qui était derrière elle. Mais vous savez quoi ? Je fus la personne avec qui elle était le plus proche de toute l'équipe, avec qui elle se sentait le mieux. Lorsqu'elle avait besoin d'avoir un retour sur comment s'était passée la journée, elle venait quasiment constamment vers moi. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce qu'en tant que croyants, nous pouvons être en contact avec des personnes qui touchent à ce genre de choses. Et il est donc très important de savoir par quoi ou par qui nous sommes conduits. Je pense que pour beaucoup d'entre nous ce matin, on désire aussi voir un réveil, que le Seigneur agisse et on voit un réveil. Mais plus nous allons entrer dans ce réveil, et plus les manifestations occultes et démoniaques vont être mises aussi en exergue. Et c'est pourquoi on doit être aussi préparé à cela. Ça commence par cette question. Par quoi ou par qui sommes-nous conduits ? Nous avons déjà abordé le fait que parfois nous sommes nos propres chefs et à quel point il est bon de se confier en Dieu et de se laisser conduire par l'Esprit. Et bien que nous soyons croyants, il se peut que des esprits mauvais puissent d'une certaine manière avoir un contrôle sur nous, un domaine ou un autre de notre vie. Et si c'est le cas, il est important aussi de vivre la délivrance pour nous-mêmes, pour être conduit par Dieu seul et ainsi être pleinement libre. Acte 16, 17. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ce que cette femme est en train de dire est la vérité. On pourrait donc penser que finalement c'est pas si grave, qu'elle est en train de leur faire de la pub même. Et pourtant c'est pas le cas. Et comme nous le verrons au verset suivant, Paul, qui est conduit par l'Esprit Saint, lui en est conscient. Et de ce fait chassera cet esprit mauvais. Si ça avait été dit peut-être une fois, peut-être que ce n'aurait pas dérangé. Mais encore, là, ça va durer longtemps. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Pour nous qui lisons ce texte, nous sommes conscients, bien sûr, que c'est un esprit qui la faisait agir de la sorte. Mais pour Paul, ce n'était pas aussi simple. C'était écrit nulle part pour lui. Au travers du fait qu'il était dirigé par l'Esprit Saint, alors il a discerné ce qui se trouvait réellement derrière cette femme. Ce n'est pas parce que quelque chose a l'apparence du vrai que ce qui est derrière est bon. Qu'aurions-nous fait dans cette situation? Qu'est-ce que moi j'aurais fait dans cette situation, tout bon croyant que nous sommes? Dans ce genre de situation, nous avons besoin d'être conduits par Dieu et qu'il nous donne aussi son discernement. Parce que finalement, ce que l'Esprit est réellement en train de faire est horrible. Alors que Paul amène une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, et que le Seigneur désire lui-même se révéler à travers cette bonne nouvelle et dans la vie de chacun, un esprit impur s'approprie la vérité. Ce qu'il fait réellement, c'est qu'il est en train de détourner la vérité afin de faire sa propre pub, sa propre glorification. C'est désastreux. Et ça, sans le discernement, sans le fait qu'il soit conduit par Dieu, il aurait été difficile à Paul de le voir. Ne voulons pas entrer dans le jeu de l'esprit, et pour éviter aussi tout incident diplomatique avec la ville de Philippe, Paul a attendu plusieurs jours, peut-être 3 jours. 3 jours durant lesquels cette femme a sûrement hurlé son slogan sans s'arrêter, sans arrêt. Finalement, il a été excédé, ce qui, en tout cas, on peut le comprendre, parfaitement compréhensible. Et il a donc chassé cet esprit dans le nom de Jésus. Et au même instant, l'esprit est parti. Paul l'a fait avec l'autorité de Christ. Nous-mêmes avons cette autorité-là. Mais au même titre que Paul, ce n'est pas notre autorité. Il s'agit de l'autorité de Jésus. Tout ce que nous le faisons en son nom. Et il ne faut pas oublier cela. C'est lui qui nous conduit et pas l'inverse. C'est Dieu lui-même qui délivre. Alors que cette femme était prisonnière, Jésus l'a libérée. À la suite de ça, les maîtres de cette femme, voyant leur source de revenus perdue, amènent Paul et ses compagnons devant les autorités, afin qu'ils puissent être enfermés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette ironie. Cette femme, qui était prisonnière, est libérée de cet esprit. Paul et ses compagnons se font faire être mis prisonniers. À leur tour, comme cette femme l'était. Mais le Seigneur envoie des anges qui vont les libérer de cette prison, montrant vraiment ainsi à tous sa grandeur, qui est vraiment à la conduite de toute chose, dans tout acte, vraiment dans tout acte, pas seulement acte 16, vraiment dans tout acte. Qui est à la conduite de toute chose? Dieu. Notre Dieu qui est dans l'ensemble de notre texte a conduit toute chose. J'arrive déjà à la fin. Je veux vraiment nous laisser avec cela. Notre vie personnelle ainsi que notre rapport à ce qui est externe à nous dépend de notre relation à Dieu. Cela dépend du fait que nous soyons conduits par lui. Que nous puissions donc le laisser conduire notre vie afin que nous soyons toujours plus libres. Laissons-le conduire notre vie afin qu'autour de nous, nous puissions faire la différence, faire son œuvre, afin d'amener sa lumière et sa vérité là où il y en a besoin. Amen.